Romains chapitre 13, les versets 8 à 10. Romains chapitre 13, versets 8 à 10, pour notre méditation de ce matin. L'amour du prochain, au nom de Jésus. N'ayez de dette envers personne, sinon la dette de l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à ce qu'ordonne la loi. En effet, les commandements, ne commets pas l'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ceux-ci et tous les autres se résument dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Amen. En lisant cette péricope que nous avons aujourd'hui ce matin, instantanément, la scène qui me revient à l'esprit, c'est la scène de Jésus avec Pilate, lors de l'audition de Jésus face à Pilate. Et j'aimerais vous lire ce passage dans Jean chapitre 18, les versets 33 à 38, pour que ce soit plus clair. Jean chapitre 18, versets 33 à 38. Au nom de Jésus. Pilate rentra alors dans le palais, il appela Jésus et lui demanda: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit: « Dis-tu cela parce que tu as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit: « Suis-je un Juif, moi ? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit: « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'appartient pas à ce monde. » Pilate lui dit alors: « Tu es donc roi ?» Jésus répondit: « Tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour parler de la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Qu'est-ce que la vérité ?» lui demanda Pilate. Ce scénario est un moment grave dans l'histoire de l'Évangile, non pas à cause de la passion du Christ qui suit cet événement par la suite, mais cet instant, une rencontre entre deux règnes, deux royaumes, deux rois face à face. Pilate, gouverneur, Jésus, roi des cieux. Ce que j'appelle la rencontre du temporel et du spirituel, en même temps, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Pilate, qui croyait avoir le dessus, il avait tous les pouvoirs, non seulement en tant que gouverneur, responsable de toute la Judée, mais il est aussi le représentant de César. Et il faut se rappeler ce dernier César, qui a été considéré comme un des fils de Dieu. Et à chaque fois que je regarde ce film de Jésus de Nazareth, relatant l'histoire de Jésus, une fois qu'on arrive à cette scène, j'ai toujours eu cette impression de cette confrontation des deux règnes. Et si vous avez entendu et lu le texte de Jean 18 de tout à l'heure, ce qui est impressionnant, c'est l'attitude de Jésus face à Pilate. Il avait une supériorité en pouvoir par rapport à Pilate, mais celui qui est le plus fort a préféré de se taire. Et c'est le faible qui parle. C'est tout à fait le contraire de notre vie de tous les jours. Dans la société, c'est le plus fort qui parle. C'est le plus fort qui impose ses règles. Ici, le fort se tait. Et pourtant, quand Pilate avait vu Jésus, comment il était ? Il était dans sa tenue pascale, pleine de sang, avec les couronnes d'épines, abattu, fatigué, On ne le reconnaissait plus. Mais quand Pilate a vu ce Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'homme. Vous imaginez cette scène? Il aurait pu dire, mais c'est qui ce vaurien? Mais il voit encore en ce Jésus, voici l'homme. Il reconnaissait son autorité par rapport à lui. Pilate se sentait tout petit face à cet homme. Or, cet homme, il était ensanglanté. Cet homme, il était abattu. D'ailleurs, ce qui agaçait un peu les Juifs vis-à-vis de Jésus, dans sa relation avec ces personnes considérées comme étant ennemis publics de l'époque, les Romains, c'est ce comportement de Jésus vis-à-vis des Romains. Jésus a rarement placé des mots durs face aux Romains. C'est souvent face aux pharisiens, aux Juifs, mais pas aux Romains. On le soupçonnait d'avoir de la sympathie avec les Romains. On pourrait dire un collabo, comme on peut le comprendre aujourd'hui. Rappelez-vous la question que Jésus avait posée à Pierre, s'il devait payer les impôts ou pas, puisqu'on parle de dette ici. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27, qui parle de cela. On va voir vite fait. Matthieu 17. Ici, c'est un texte qui parle un peu de la vie de tous les jours en tant que citoyen. Matthieu 17, 24 à 27, au nom de Jésus. Quand Jésus et ses disciples arrivent à Capernaum, les percepteurs de l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent, « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple ?»« Si, il le paye, » répondit Pierre. Et au moment où Pierre entrait dans leur maison, Jésus prit la parole le premier et dit, « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde ? Les citoyens de leur pays ou les étrangers ?»« Les étrangers, » répondit Pierre. Par conséquent, lui dit Jésus, « Les citoyens n'ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas choquer les gens. C'est pourquoi, va au lac, lance une ligne à l'eau, tire à toi le premier poisson que tu attraperas et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paie-leur leur impôt. » Jésus payait les impôts qu'il devait aux Romains. Ces Romains qui sont les oppresseurs du peuple d'Israël. Et or, pour les Juifs, c'était une forme de soumission à l'autorité, ce geste. Or, eux, ils véhiculaient la désobéissance civile. Jésus faisait le contraire. Il payait l'impôt des Romains. Comme s'il prêtait allégeance à l'ennemi oppresseur. Mais ce qu'il ne savait pas, l'angle de vue de Jésus dans son rapport avec l'autorité politique, n'était pas dans une dynamique de hiérarchie, puisque c'est une hiérarchie, donc je dois me soumettre. Ce n'est pas dans cette optique-là. Je reprends ce que j'ai dit concernant le face-à-face de Jésus et Pilate. Jésus ne se sentait pas écrasé par le pouvoir de Pilate, comme s'il n'avait pas le choix. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Mon royaume ne vient pas de ce monde. Et en suivant le dialogue entre les deux, on sentait que Pilate avait peur de Jésus. Sa façon de poser les questions, il avait peur de cet homme. Surtout quand sa femme, la femme de Pilate, a conseillé Pilate de le lâcher, car la veille, elle avait fait un cauchemar sur ce Jésus. Elle a dit, lâche cet homme. Mais pourquoi alors ce silence de Jésus? Il voyait bien que Pilate perdait ses moyens, mais Jésus se tait. Il aurait pu avoir l'occasion en or de se libérer. La réponse, nous le savons tous, c'est par amour. D'après un exégète, c'est le moment où la tentation était la plus forte pour Jésus. Ce n'était pas la croix. Parce que là, il n'y avait aucun chef d'accusation qui était valable. Il aurait pu se faufiler. Mais c'est là qu'il a dit « j'accepte, par amour ». Jésus a dû se taire afin que le salut puisse s'exaucer. Et c'est la clé d'interprétation qui nous est donnée aujourd'hui dans ce texte par Paul. Ce passage que nous avons parle d'amour, mais dans le cadre de vie, d'un vie d'un citoyen amour du prochain. Et il faut tenir compte du contexte précédent. Paul aborde la relation que nous devions avoir face aux autorités établies d'abord. Il donne au verset précédent une leçon d'éthique importante dans le type de rapport que nous avons avec les autorités. Et je mets ici les autorités avec S. Ça pourrait être l'autorité administrative, l'autorité professionnelle, l'autorité familiale, les parents, toute forme d'autorité. Mais qu'est-ce qui différencierait alors un croyant face à un non-croyant dans notre relation avec les autorités? Le chrétien, lui, il fait toute chose, pas par obligation, pas par devoir, pas par crainte d'une sanction ou d'un procès verbal. Il fait par amour, afin que cette autorité ne soit pas sentie comme un poids qui écrase. Parce qu'il n'appartient pas à ce royaume, il appartient à un royaume qui vient d'en haut. Il devait aimer ce qu'il fait. Un croyant doit aimer ce qu'il fait, non seulement dans une attitude de gagne-pain, dans ton boulot, là où tu travailles. Pourquoi tu te lèves chaque matin pour aller au travail? Si ce n'est qu'un gagne-pain, alors ça ne vaut pas la peine. Mais si tu le fais parce que tu aimes ce que tu fais, là c'est autre chose. Là ça te donne l'envie de te lever même s'il est à 5 heures du matin. Il devait aimer ce qu'il fait, et non seulement dans une attitude de soumission. Les enfants doivent aimer leurs parents qui leur donnent des consignes ou des directives, non pas parce que je suis dépendant d'eux et que je n'ai pas le choix, ainsi de suite, ceux qui travaillent. Et le sens du mot « devoir » est assez différent pour un croyant. Je trouve que ce texte tombe bien pour la rentrée académique sur notre rapport au travail, notre rapport à l'école, aux institutions, à nos parents, à tout ce qui se passe dans la société pour démarrer cette nouvelle année académique. Je crois qu'avant de parler d'attitude, il faut définir quel type de rapport avons-nous avec Dieu tout d'abord. Avant de parler ma relation avec mes autorités, quelle est d'abord ma relation avec Dieu, qui est l'autorité suprême? Et de là, ça se transparaît dans ma relation avec les autorités. Comme Jésus l'a dit dans la parabole du bon berger, celui qui se considère comme mercenaire, il n'a aucune sympathie pour ses brebis. À la première difficulté, le mercenaire, dès qu'il a une petite menace quelconque, il prend la fuite et laisse les brebis seules livrées à elles-mêmes. Mais celui qui se considère comme un vrai berger, quelqu'un qui a un esprit de copropriétaire, voilà un vrai berger. Ce n'est pas un salarié, ce n'est pas un ouvrier, un copropriétaire. Lui, il ne va jamais partir, abandonner ses propres intérêts. Tout se repose dans notre relation par rapport à Dieu, face à l'autorité, l'attitude que nous avons à l'adopter. Et pour cela, je trouve que dans le livre du Nouveau Testament, qui est le plus adéquat à notre thématique de ce matin aussi, on peut prendre comme exemple l'épître de Paul à Philémon. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cet épître, je ne crois pas. L'épître de Paul à Philémon, oui, ça existe. Pour résumer un peu l'histoire, il y avait un monsieur qui s'appelle Philémon. Un riche propriétaire que Paul connaissait et il était chrétien. Ce Philémon, il avait un esclave qui s'appelait Onésime. Ce dernier, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dérapé car il a volé son maître. Et il s'est enfui de Philémon. Et quand il s'est enfui de chez Philémon, il est parti où, le malin? Il s'est enfui auprès de Paul. Il est malin car il sait bien que Philémon a un profond respect pour Paul. Il dit, si je vais vers Paul, il n'osera pas mettre la main dessus, puisque Paul était le père spirituel de Philémon. Alors Onésime se rendait en prison, puisque Paul à ce moment-là était en prison, pour trouver refuge. Alors Paul l'a pris sous son aile pendant un temps assez long. Et une fois que l'accompagnement spirituel que Paul avait fait fut terminé, Paul l'a renvoyé vers Philémon. Non pas pour se dénoncer, pour se rendre et avouer ce qu'il a fait, mais il l'a envoyé vers Philémon avec une lettre. C'est pour cela qu'il a écrit l'épître à Philémon. Une lettre qui est cette épître de Paul à Philémon. Et dans cette lettre, Paul n'a pas usé de son influence auprès de Philémon pour dire « Je suis l'apôtre de Jésus-Christ, donc tu dois tout oublier et reprendre Onésime. » Non, ce n'est pas le but. Paul n'a pas usé de son autorité pour effacer la faute de son esclave, car ce qu'il avait fait est grave, et Paul le reconnaît. Mais ce qu'il a dit à Philémon est quelque chose de très inattendu. En gros, voici ce qu'il dit à Philémon. Voici Onésime, je te le renvoie. Il s'est enfui de chez toi en tant qu'esclave, mais maintenant je te le rends non plus en tant qu'esclave, mais en tant que frère. Je te renvoie Philémon non plus en tant qu'esclave, mais en tant que frère. Et c'est tout. Et Philémon a tout compris. Et analysons cette phrase de Paul, Onésime est toujours la même personne que Philémon avait connue. Mais en revanche, il a changé de statut vis-à-vis de lui. Et Paul le recommande de le reprendre en tant que frère cette fois-ci, mais plus en tant qu'esclave. Humainement parlant, ce que Paul demande est de trop. Déjà, c'est un voleur. Mais il me demande encore de le prendre comme frère. C'est plus qu'il faut donner. Mais ce que nous oublions dans tout cela, c'est que si Onésime revenait encore en tant qu'esclave chez Philémon, il est sûr que la tension entre les deux seront toujours menaçantes. Un jour, il va récidiver. Un jour, il va encore revoler. Et ce n'est pas sûr qu'il va être sur le droit chemin. Mais s'il le prend comme son frère, alors il sera gagnant, car un frère cherchera toujours à protéger les intérêts de son propre frère. N'est-ce pas? Un frère ne volera pas son frère. C'est ce que Paul le dit. Tu es gagnant. Et il va même te rembourser tout ce qu'il t'a volé parce que il a un cœur d'un frère maintenant, mais plus d'un mercenaire. Chers étudiants, chers élèves, chers travailleurs, quel serait votre mot d'ordre pour cette nouvelle année académique? Demandez à Dieu pour qu'il vous donne un autre regard du milieu où vous évoluez, l'école, l'université, les autres écoles, le boulot, le travail, où vous êtes. Si avant vous avez eu difficile avec vos dirigeants, vos profs, vos supérieurs, n'attendez pas que le changement vienne des autres. Le changement vient de nous d'abord, notre regard sur les autres. Ne venez pas avec un sujet de prière, prie pour que mon supérieur change. D'abord, change-toi d'abord et tu verras que ton supérieur aussi va changer. Aie le courage de te rectifier sur une nouvelle base, non pas du positivisme comme font ceux qui font le développement personnel, ce n'est pas du positivisme, mais de demander à Dieu l'amour du prochain, car telle est la seule clé de réussite. Si tu aimes, tu peux tout, et quand tu n'aimes plus, tu ne peux même pas faire le minimum. Nous sommes ce que nous sommes, et nous n'avons pas les moyens de nous améliorer en tant que pécheurs. Ça, c'est un constat. Alors, le Seigneur nous invite à lui demander, lui qui est riche en toutes choses, donne-moi, Seigneur, ton amour. Et pour clôturer ma méditation, Jacques, dans l'épître de Jacques, par exemple, nous dit ceci. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée.